Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Signal de plus du profond marasme économique dans lequel le Venezuela est plongé depuis plusieurs années, l'essence était quasiment gratuite dans ce pays qui dispose d'énormes réserves d'or noir. Elle ne l'est plus depuis lundi dernier, 1er juin, sur décision du président Maduro qui a par ailleurs mis fin au monopole de l'État vénézuélien sur la vente des carburants. Une mesure rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la production de pétrole. Le phénomène n'est pas récent, mais il s'est accentué avec la crise du coronavirus. Le pays qui a clos 2019 avec une inflation de 200 000% et dont l'économie s'est dollarisée fait face à une difficile situation de pénurie alors qu'il est gorgé de pétrole, possédant les réserves les plus importantes au monde. Il y a quelques jours, des tankers iraniens livraient de l'essence et d'autres produits pétroliers au gouvernement socialiste de Nicolas Maduro. Une livraison vue comme une provocation par Washington qui a dénoncé le soutien de Téhéran à un régime jugé illégitime. Alors que le monde est occupé à combattre le Covid-19, le désastreux déclin du Venezuela se poursuit sur fond de montée des tensions entre le déploiement de navires états-uniens dans la mer des Caraïbes en avril, l'envoi il y a quelques jours par Washington d'une unité de force spéciale en Colombie pour appuyer la lutte anti-drogue, une opération visant le gouvernement Maduro accusé de collusion avec des narcotrafiquants. L'énigmatique opération Gédéon, marquée par le débarquement d'une poignée de mercenaires sur une plage vénézuélienne au début du mois de mai, et le fiasco d'une série commencée en janvier 2019 avec l'autoproclamation de Juan Guaido comme président intérimaire. La pandémie du coronavirus a accru la crise humanitaire et mis en avant l'énorme distance entre les élites politiques et la majorité de la population. Regard avec nos invités, Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Amérique latine et auteur de Venezuela, chronique d'une déstabilisation aux éditions Le Temps des Cerises et collaborateur du site Mémoire des Luttes. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et co-rédacteur des Cahiers de l'Amérique latine, édition IHEAL. Bonjour.
Bonjour.
Les experts s'accordent à dire que le coronavirus et l'effondrement des prix du pétrole sont les plus grands défis que doit affronter le régime militaire du président Maduro. L'accord intervenu au début de la semaine entre le gouvernement du président Maduro et le chef de l'opposition, Juan Guaido, pour rechercher ensemble des fonds destinés à lutter contre le coronavirus au Venezuela, peut-il permettre d'éviter que la crise socio-économique n'évolue en calamité humanitaire ? Cette question a un double volet. On peut rappeler que le Venezuela est particulièrement touché par la pandémie en raison du délabrement des services de santé et a un accès difficile aux financements internationaux. Il y a cette question de l'or vénézuélien qui est bloqué dans les coffres londoniens de la Banque d'Angleterre pour une valeur de 200 milliards de dollars et le Fonds monétaire international qui a rejeté à la mi-mars une aide de 5 milliards de dollars au motif que l'institution ne reconnaît pas clairement le gouvernement Maduro. Les relations entre le pouvoir chaviste de Maduro et Juan Guaido sont habituellement très tendues. Et dans quel état est aujourd'hui le Venezuela ? Maurice Lemoine ?
Si on peut faire une métaphore, je dirais que l'étranglement à mort de George Floyd aux États-Unis est appliqué au Venezuela. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la clé du problème en ce moment, c'est l'escalade des sanctions économiques. On appelle ça sanctions. En réalité, ce sont des mesures coercitives unilatérales appliquées au Venezuela qui ont pour but d'asphyxier le pays. Hein. Et on trouve exactement d'ailleurs la même rhétorique chez le président Donald Trump, puisqu'il a utilisé à 3 semaines de distance la même phrase au sujet du Venezuela qu'au sujet des manifestants qui aujourd'hui sont dans la rue aux États-Unis. Nos militaires sont prêts, nous pouvons envoyer des troupes sur le terrain très rapidement. Il y a donc à la fois un problème au Venezuela avec une gestion sur laquelle on peut discuter, sur laquelle on peut avoir un vrai débat, mais bien évidemment, le cœur de la crise, c'est l'agression des États-Unis contre ce pays.
Olivier Compagnon.
je partage tout à fait cette vision. Cette agression, alors elle est ancienne, hein, évidemment, les relations prétendues entre Washington et Caracas, elles datent en fait tout simplement du début des années 2000, et on se souvient des affrontements rhétoriques hein, entre Bush et Chavez. Mais évidemment, ces sanctions ont pris une toute autre dimension depuis janvier 2019 et l'autoproclamation de Guaido comme président légitime et le soutien d'une partie de la communauté internationale à cette autoproclamation. Ça, c'est une donnée qui date environ de 15 mois, disons. Et évidemment, dans le contexte dramatique de la crise sanitaire, on pouvait éventuellement s'attendre, je dirais pour des raisons humanitaires, à peut-être un relâchement de ces sanctions, et c'est tout le contraire qui se passe. D'abord, vous l'avez signalé, et ça me paraît très très important, le Fonds monétaire international, donc celui-là même qui n'hésitait pas à donner 57 milliards de dollars pour la relance argentine de Mauricio Macri, qui n'a servi strictement à rien pour relancer l'économie argentine, refuse une aide en pleine crise sanitaire, ce qui en dit quand même long aujourd'hui sur la politique qui est menée au FMI. Et dans le même temps, effectivement, Trump non seulement maintient les sanctions, mais en plus gesticule considérablement. Il faut rappeler quand même, hein, au début du mois d'avril, le déploiement de forces navales nord-américaines dans la mer des Caraïbes pour, disons, lutter contre le trafic de drogue, hein, et en vérité pour continuer cette logique d'asphyxie du gouvernement. Donc moi, je partage tout à fait l'analyse de Maurice Lohmann, en sachant qu'évidemment, il faut aussi faire le bilan de la gestion interne, hein, et on va y venir par la suite.
Jean-Jacques Kourlianski.
Oui, bon, je vais essayer, comme je n'ai pas vraiment de désaccord avec ce qui vient d'être dit, d'ajouter un élément nouveau, c'est sur la gestion internationale de la crise vénézuélienne, qui est révélatrice de la détérioration du multilatéralisme depuis l'arrivée de, comme moyen pour gérer des crises, depuis l'arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis. Donc on assiste à une dégradation des instruments qui permettraient de régler les crises internationales. Alors on parle beaucoup de guerre froide à propos du Venezuela, comme de l'Iran, de la Chine, etc. Sauf que on oublie un fait quand même important, c'est que pendant la guerre froide, les pôles idéologiques étaient bien marqués, mais il y avait l'acceptation d'une forme de dialogue et de coexistence pacifique. Ce que l'on constate dans l'affaire vénézuélienne, et les choses se sont très détériorées donc depuis l'arrivée du président Donald Trump à la présidence des États-Unis, c'est que, pour revenir à la crise du Venezuela, qu'il s'est attaché à la construction avec un certain nombre de gouvernements latino-américains qui ont changé, qui sont passés, pour faire bref, du progressisme aux droites au pluriel, à l'organisation d'une sorte de coalition internationale visant à étouffer économiquement le Venezuela, le tout assaisonné d'un contexte de menaces d'intervention militaire qui ne sont jamais appliquées. Donc il y a la menace, il y a le déploiement effectivement de forces navales depuis le mois d'avril, l'arrivée de 45 militaires américains dans la base de Toquemada au centre de la Colombie, qui a toujours été le noyau des forces colombiennes et américaines pour lutter contre la drogue officiellement, mais en fait c'était à l'époque contre les FARC. Donc on a un tableau qui est assez diversifié, mais d'où il ressort que le président Trump se sert essentiellement de l'arme économique pour étouffer une économie déjà malade, celle du Venezuela, et la faire tomber, au point que le secrétaire d'État Mike Pompeo, il y a quelques semaines, a dit: nous allons bientôt réouvrir notre ambassade à Caracas. Donc l'ambassade des États-Unis, depuis la reconnaissance de Juan Guaido, a été rapatriée sur Bogota. Donc voilà les éléments qui me paraissent importants. Sur l'aspect militaire, effectivement, le message de Donald Trump, ce sont les menaces, quelques gestuels en vue d'alimenter un climat d'inquiétude et de pression sur les autorités vénézuéliennes, un appel aux militaires vénézuéliens pour qu'ils se soulèvent, il n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent, et des appels du pied pressants aux pays voisins, la Colombie et le Brésil, pour qu'ils fassent le ménage militaire à la place des États-Unis, ce qu'ils n'ont pas fait non plus, ils ne sont pas allés jusque-là.
Alors, on parlera de la gestion interne peut-être dans la deuxième partie de l'émission. On reste sur la question internationale. Alors, plusieurs choses, dégradation des instruments et crise du multilatéralisme. À cela, on peut peut-être un tout petit peu parler de l'organisation des États d'Amérique, avec à sa tête l'Uruguayen Luis Almagro, qui a été réélu en mars dernier, avec un très fort appui des États-Unis. L'OEA, là aussi, Russie ne tient plus la place et le rôle qu'elle a eu pendant de nombreuses années, Maurice Lemoine.
Marie-France Chatin, je serai en partie en désaccord avec vous. L'Organisation des États américains, qui a été qualifiée, alors vous allez me dire, par Fidel Castro, bien sûr, comme ministère des colonies des États-Unis, continue, de mon point de vue, à assumer ce rôle. C'est-à-dire que l'OEA et Luis Almagro, que vous avez cité, sont effectivement en pointe dans l'aide au gouvernement de Washington pour faire tomber Maduro. Et par ailleurs, on peut noter que dans cette période terrible de la pandémie du coronavirus, cette organisation multilatérale qui devrait être en pointe pour unifier les pays latino-américains pour lutter contre la pandémie, n'a strictement rien fait. On a donc effectivement sur le plan international une aberration, y compris par la reconnaissance par un certain nombre de pays de Juan Guaido, le président autoproclamé, sous une forme d'ailleurs qui bien souvent est inconsciemment manipulé, sans doute, c'est que quand on nous dit, par exemple, qu'une soixantaine de pays reconnaissent Juan Guaido, ça n'a strictement aucun sens, sauf à considérer que font partie de la communauté internationale uniquement les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Or, en réalité, à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU, les deux tiers des pays reconnaissent Nicolas Maduro comme président du Venezuela. Et il n'y a pas uniquement les pays qui sont dans le collimateur comme la Chine ou comme l'Iran ou comme la Corée du Nord. Vous avez des pays africains, vous avez des pays du Proche-Orient. Sur le plan international, le gouvernement légitime du Venezuela, c'est Nicolas Maduro, y compris la France qui a reconnu Juan Guaido. Entre parenthèses, on se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça aide à résoudre la crise? L'ambassadeur du Venezuela en France s'appelle Michel Mujica et c'est l'ambassadeur du président Nicolas Maduro.
Alors un commentaire, Olivier Compagnon, sur cette reconnaissance aussi.
Je suis tout à fait d'accord aussi bien sur l'histoire de l'OEA que sur les éléments plus contemporains. D'ailleurs, ça en dit long. Enfin, je trouve qu'il y a presque une forme de naïveté de la diplomatie nord-américaine et de l'OEA, puisque ce qu'on voit à l'œuvre quand même, c'est la réplique de la stratégie qui a été déployée pendant des décennies vis-à-vis de Cuba, l'étranglement économique, la pression diplomatique. Et aux dernières nouvelles, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que si l'objectif de Trump est effectivement de faire tomber Maduro, je pense que c'est une grave erreur de faire montre de cette agressivité systématique, dans la mesure où ça donne au contraire des armes, je crois, au régime qui a tout à fait raison de se dire agressé, étouffé, etc., etc. Deuxième point, on ne peut que s'étonner de l'attitude de la France, dès lors qu'on entend le président de la République expliquer que la lutte contre la pandémie est une lutte mondiale et que la coopération internationale, l'aide au développement font partie de cette lutte mondiale, on se demande bien effectivement pourquoi aucune voix française ou européenne ne s'élève lorsque le FMI refuse une aide face à une situation humanitaire tragique. Mais au fond, là, on a effectivement cet alignement des diplomaties européennes, pour l'essentiel, sur la diplomatie américaine depuis janvier 2019, depuis l'autoproclamation de Guaido. À titre personnel, je le regrette beaucoup parce que je crois que justement l'Europe aurait sans doute un rôle très différent à jouer, un rôle moins impérialiste, pour employer, je dirais, un mot ancien, très connoté, etc., mais en vérité qui traduit une réalité tout à fait à l'œuvre.
Alors on voit Jean-Jacques Orlianski, les États-Unis gesticulaient beaucoup, comme cela vient d'être dit depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que l'on sait des rôles respectifs de la Chine, de Cuba, de la Russie et de l'Iran qui soutiennent Nicolas Maduro?
La stratégie qui a été développée donc depuis 3 ans par les États-Unis est celle d'une destruction des instruments de règlement des conflits internationaux. Donc l'OEA est devenue donc un instrument avec le secrétaire général Luis Almagro, l'Uruguayen, de cette politique. Mais surtout, il y a eu la destruction d'un instrument diplomatique autonome des pays latino-américains, sud-américains, qui était particulièrement intéressant, qui avait aidé à résoudre un certain nombre de conflits, notamment entre le Venezuela et la Colombie. C'est l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, qui a disparu. En revanche, ont été créés en 2017, en août 2017, à Lima, un groupe, 10 groupes de Lima, dans lequel les États-Unis ne sont pas présents, mais sont représentés par le Canada, qui joue le rôle de go-between, de messager des États-Unis dans ce groupe, dont l'objectif essentiel est de faire tomber le gouvernement vénézuélien et de favoriser l'accession de l'opposition au pouvoir par toutes sortes de moyens, excepté les moyens militaires. Mmh. Alors, il y a eu malgré tout des efforts en vue de trouver des solutions. En février l'année dernière à Montevideo, il y en a eu deux. L'un avec l'Union européenne, mais qui va dans le même sens, donc la reconnaissance de Guaido, et paradoxalement, c'est assez contradictoire, recherche d'une médiation entre les acteurs en vue d'aller vers des élections transparentes, et une proposition beaucoup plus intéressante d'un point de vue diplomatique et beaucoup plus réaliste, qui était celle du Mexique et de l'Uruguay, qui était celle, au fond, de reprendre la façon dont on gère les crises internationales, qui passe par une reconnaissance mutuelle et par l'organisation d'un dialogue avec éventuellement des facilitateurs. Ça a été possible chez le voisin de la Colombie, par exemple, entre les FARC et le président Santos, qui était aux antipodes idéologiques l'un des autres, mais qui pourtant, avec l'objectif d'arriver à trouver une solution de paix, qui est la solution qui est attendue par les Vénézuéliens et par les pays voisins, était celle qui aurait été la plus souhaitable. Et alors effectivement, je suis tout à fait d'accord, on aurait pu s'attendre que la proposition Mexique-Uruguay aurait pu être soutenue par l'Europe, qui aurait pu reprendre le flambeau de la diplomatie et de la paix, et non pas se retrouver dans une gestion idéologique, une gestion de croisade, finalement, de la crise qui suppose d'entrée de jeu la négation de l'une des parties. Alors, en ce qui concerne la Chine et la Russie, donc la Chine est l'un des principaux partenaires actuellement économiques et financiers. Le Venezuela est très endetté à l'égard de la Chine, donc elle souhaite effectivement, ne serait-ce que pour cette raison, que le gouvernement vénézuélien d'aujourd'hui, donc celui de Nicolas Maduro, reste en place, sauf à ce qu'on lui assure qu'ultérieurement, un futur gouvernement vénézuélien, quel qu'il soit, lui garantisse le remboursement des crédits qui ont été accordés. Pour la Russie, donc, c'est dans le grand jeu avec les États-Unis sur tous les points du monde. Il y a une fenêtre d'opportunité permettant de faire pression sur les États-Unis. Elle l'utilise. C'est de bonne guerre. Il y a l'Iran également. Cela dit, ses alliés du Venezuela sont des alliés qui, quand même, se font payer très cher. L'Iran, qui vient de livrer 1,5 million barils de pétrole au Venezuela, l'a fait en échange de 9 tonnes d'or. Donc c'est pas gratuit. Et qui plus est, cet or vénézuélien, il y en a une partie qui est déjà gelée aux États-Unis, une autre partie qui l'est au Royaume-Uni. Donc ce ne sont pas des réserves indéfinies. Et la situation, effectivement, du Venezuela est assez compliquée de ce point de vue-là.
Alors, on n'a pas le temps, avant la fin de cette première partie d'émission, de reparler de l'affaire Gédéon. On y viendra dans la deuxième partie. Mais il y a aussi un allié important régional dont on n'a pas parlé. Quelques mots là-dessus. C'est Cuba. Maurice Lemoine, Olivier Compagnon.
Pour le coup, je dirais que là, il y a une véritable logique, hein, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, à l'époque où Fidel Castro était au pouvoir à Cuba, il y a eu une étroite collaboration qui s'est établie entre les deux pays. Les deux pays qui, indépendamment de leur proximité idéologique, encore que les modes de gouvernement de Cuba et du Venezuela soient totalement différents, hein, il n'y a pas de parti unique au Venezuela, il n'y a pas de monopole sur l'information, etc. Mais les deux pays sont évidemment solidaires, et là je vais aller très très vite, dans la mesure où tous deux font partie de ce que l'ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui s'est fait congédier il n'y a pas très longtemps, a placé trois pays dans ce qu'il appelle la troïka de la tyrannie, c'est-à-dire Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Hein. Le même John Bolton sur CNN, hein, en mars 2019, disait, et d'une certaine manière, je vais tout résumer, dans cette administration, nous n'avons pas peur d'utiliser le mot « doctrine de Monroe ». Et la doctrine de Monroe, pour tous ceux qui connaissent l'Amérique latine, c'est la domination des États-Unis sur l'ensemble du continent.
Olivier Gambien.
On est donc loin de la période Obama, où on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande politique latino-américaine, et où quand même, on a eu cet événement majeur du rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, et là on voit quand même la rupture absolument majeure qu'a représenté l'arrivée de Trump au pouvoir. Après, juste un mot très rapide sur l'Iran. Alors évidemment, ce sont, je dirais, les ennemis des États-Unis qui, à un moment donné, sont solidaires, mais il faut aussi inscrire la relation Venezuela-Iran dans le temps long des relations au sein de l'OPEP. Il ne faut pas oublier que ce sont deux des cinq membres fondateurs de l'OPEP, avec l'Irak, l'Arabie Saoudite et le Koweït, et qu'il y a une vieille tradition de coopération diplomatique autour de la question pétrolière, parce que c'est l'un des enjeux majeurs de la bonne santé économique de ces pays, et je crois que c'est important aussi d'inscrire tout ça dans ce temps long, et pas seulement dans la conjoncture politique très contemporaine.
On vous retrouve, Olivier Compagnon, Maurice Lemoine et Jean-Jacques Orlianski, après le journal. À tout de suite.
Magazine Jeune Afrique et d'Europe. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Venezuela. Nous retrouvons nos invités Jean-Jacques Orlianski, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Maurice Lemoine, journaliste et écrivain spécialiste de l'Amérique latine et auteur de Venezuela, chronique d'une déstabilisation aux éditions Le Temps des Cerises. Et Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'IHEL, l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et co-rédacteur des Cahiers de l'Amérique latine aux éditions IHEL. Le mois de mai a connu une curieuse opération baptisée Gédéon, qui a consisté dans le débarquement d'une poignée de rebelles vénézuéliens aidés d'au moins deux mercenaires états-uniens sur une plage vénézuélienne. Que sait-on exactement de cette opération avortée dans son objectif qui était de capturer le président Maduro? Alors, on sait tout de même la version du président Trump pour les interventions à grande échelle, comme celle de 1989, qui vit 27 000 soldats états-uniens débarqués au Panama. Gédéon portait-elle la signature des États-Unis et quel rôle pour l'opposant à Nicolas Maduro qui est Juan Guaido?
Moi, je veux bien démarrer.
Maurice Lemoine.
Laisser mes amis ensuite continuer. Écoutez, c'est une histoire qui est très significative. D'abord, il faut commencer par un événement qui a pu paraître un peu burlesque. C'est le 1er avril, je crois, la justice des États-Unis qui déclare Nicolas Maduro narcotrafiquant et qui met 15 millions de dollars de récompense à qui capturera Nicolas Maduro, qui est un truc absolument, excusez-moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Maduro, absolument ahurissant. Là-dessus, le 3 mai, au petit matin, effectivement, on démarre une série d'opérations qui va faire 8 morts chez les assaillants, qui va faire un certain nombre de détenus. Une opération commando, hein, qui vient de Colombie. On pourrait considérer ça comme une opération rocambolesque menée par des pieds nickelés, parce que tout ça ne paraît pas très très sérieux. Alors, c'est pas une opération mercenaire dans la mesure où l'ensemble des participants de cette opération sont souvent des militaires vénézuéliens qui donc agissent manifestement par conviction politique. Hein. En revanche, ils sont effectivement encadrés par trois, ce qu'on va appeler là des mercenaires, et en particulier dirigés par un Américain qui s'appelle Jordan Goodrow, qui est un ancien des forces spéciales et qui a monté aux États-Unis en Floride d'une société de sécurité privée qui s'appelle Silvercorp. Mmh. Et puis il y a dans les rangs deux mercenaires de Silvercorp qui encadrent cette opération. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va découvrir ensuite. Et on ne va pas le découvrir de la bouche de Nicolas Maduro, on va le découvrir de la bouche même de l'opposition, en particulier d'une journaliste d'opposition qui s'appelle Patricia Poleo, qui est une anti-chaviste furibonde, qui a lutté contre Chavez, qui est maintenant en exil à Miami. Et c'est elle qui va révéler ce qu'on va appeler le contrat. Cette opération, effectivement, a été menée sous l'égide d'un contrat. Ce contrat, il a été signé entre Jordan Goodrow, donc ce mercenaire, Juan Guaido, président autoproclamé, Sergio Vergara, son bras droit, et puis son stratège en chef, Juan José Rondon, qui est un consultant politique de droite, on va dire, très radical. Et dans ce contrat, je vais juste vous en lire un passage, parce que c'est un contrat au sens mafieux du terme. J'ouvre les guillemets. Les prestataires de services vont conseiller et assister le groupe associé, alors le groupe associé, c'est le groupe Juan Guaido, dans la planification, l'exécution d'une opération pour capturer, arrêter ou éliminer Nicolas Maduro. Mm. C'est écrit noir sur blanc. Mmh. Et éliminer l'actuel régime et installer le président reconnu, Juan Guaido. Évidemment, Juan Guaido va nier l'existence de ce contrat. Sauf que Juan José Rondon, lui, va confirmer. Il était prévu 50 millions de dollars d'avance au début. Et puis bon, bref, je ne rentre pas dans le détail. Simplement, ce que j'essaie d'expliquer là, c'est qu'il ne s'agit pas d'une opération, de barjot. Il s'agit d'une opération qui a échoué et qui était dans le cadre d'une stratégie. Dernier élément pour ne pas accaparer tout le temps, le Jordan Goodrow dont je parle en particulier, je ne vais pas vous dire que c'est Trump qui a organisé l'opération, je n'en sais strictement rien, mais sans appartenir au Secret Service, c'est l'unité qui est chargée officiellement de la protection du président des États-Unis, Goodrow a participé personnellement à la sécurisation de plusieurs événements auxquels participait Donald Trump. Donc ce n'est pas non plus n'importe qui.
Donald Trump, candidat à l'élection il y a bientôt 4 ans. Alors, le gouvernement vénézuélien pourrait, Jean-Jacques Kourlianski, Olivier Compagnon, oser arrêter Juan Guaido à la suite de cette affaire, arrestation considérée par Washington comme une ligne rouge. Un commentaire, Jean-Jacques Kourlianski.
Je voudrais revenir sur la comparaison que vous avez faite en posant la question avec l'opération de Panama qui a mobilisé plusieurs dizaines de milliers de soldats. Là, on se trouve avec quelque chose de beaucoup plus modeste, qui est davantage révélatrice des difficultés à exister de l'opposition vénézuélienne, des difficultés à fabriquer une stratégie cohérente et qui en permanence hésite entre ce type d'action violente pas très bien montée et des phases plutôt de dialogue. Alors effectivement, là où on peut être d'accord avec Donald Trump, il dit si c'est moi qui avais organisé, si nous avions organisé, ça se serait passé différemment. On revient à l'affaire panaméenne. Ce qui n'est pas le cas dans cette opération, effectivement, qui est assez surprenante par la modestie des moyens utilisés et par l'ambition double. On a des chasseurs de primes, donc ces Nord-Américains qui ont monté une société de sécurité privée. Bon, c'est pas nouveau, ces sociétés de sécurité privée, c'est vrai, permettent au gouvernement des États-Unis d'externaliser un certain nombre d'opérations en Colombie d'abord, puis ensuite en Irak et en Afghanistan. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il y a eu vraiment externalisation ou est-ce qu'il s'agit d'une affaire comme cette société est tout à fait nouvelle et qu'elle a besoin d'exister, qu'elle a besoin de fonds? Donc, bon, dans la mesure où il y avait une prime sur la tête de Nicolas Maduro, il pouvait y avoir une conjonction d'intérêts entre eux et la partie de l'opposition qui considère que pour changer de régime, il faut utiliser la manière forte. Je pense que personne n'a cru à quelque moment que ce soit que l'opération Gédéon allait réussir, compte tenu donc des moyens mis à disposition d'une fraction de l'opposition. Le problème, effectivement, est de savoir pourquoi le gouvernement vénézuélien, finalement, ne touche pas Juan Guaido. Et il aurait pu être arrêté déjà le 23 janvier de l'année dernière, quand il s'est autoproclamé dans la rue président du Venezuela. Ça n'a pas été le cas. C'est une question de gestion de l'opposition de la part du gouvernement Nicolas Maduro. Est-ce que il serait plus porteur de retombées politiques et diplomatiques positives d'arrêter Juan Guaido ou de le laisser s'enfoncer dans ses contradictions? Je pense que c'est la deuxième option qui a été choisie et qui est en train de produire d'ailleurs des résultats. On l'a vu l'année dernière avec le président Trump qui commence à s'agacer, qui a renvoyé Bolton en disant il me fait faire des bêtises. Et la proposition de Pompeo il y a quelque temps, finalement, qui revient à rétrograder en deuxième division Juan Guaido en disant il faut trouver une solution mettant à l'écart Guaido et Maduro. Donc je pense que la position du gouvernement vénézuélien et plutôt laisser s'enferrer l'opposition dans ses contradictions.
Olivier Compagnon.
Oui, ils ont bien raison, parce que là, on retrouve chose qu'on a souvent dite sur le Venezuela depuis 20 ans, c'est l'opposition la plus bête du monde. Enfin, excusez-moi, c'est un peu dit rapidement. Mais enfin, on retrouve là la même logique séditieuse que celle qu'on avait observée en avril 2002. Chavez avait été élu, il était le produit de la souveraineté populaire, et d'un seul coup, il y a un coup d'État absolument soutenu par la communauté internationale, etc., etc., qui a en fait beaucoup servi le chavisme, parce que effectivement, il y avait une tentative de déstabilisation qui était absolument injustifiable. Et là, c'est vrai que ce qu'a raconté Maurice Lemoine tout à l'heure est absolument hallucinant. Et là, moi, je ne comprends pas comment une petite partie de la communauté internationale, mais des pays qui pèsent lourd, qui soutient Guaido depuis janvier 2019, va pouvoir continuer à le faire. Et donc, juste, je voudrais articuler cela avec l'accord très récent hier qu'il y a eu entre Maduro et Guaido, une sorte de trêve pour essayer de lever ensemble des fonds sous l'égide de l'Organisation panaméricaine de la santé pour lutter contre la pandémie. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que Maduro est affaibli et est obligé de négocier avec Guaido? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est l'inverse. Je pense que Guaido, à un moment donné, sent qu'il est considérablement discrédité, d'abord parce qu'il pensait faire tomber très rapidement le gouvernement depuis janvier 2019, et ça n'a pas été le cas. Et surtout, là, cette barbouzerie ridicule, hein, dans une certaine mesure, l'a complètement décrédibilisé, au point d'ailleurs hein, que l'hypothèse de ressortir Enrique Capriles, qui avait été l'un des adversaires électoraux de Chavez au début des années 2010, est en train d'apparaître au sein de l'opposition. Donc en tout cas, l'accord récent, à mon avis, montre justement que Maduro joue très très bien du discrédit qui pèse de plus en plus fortement sur Guaido.
Alors est-ce qu'on peut précisément, Maurice Lemoine, dire que finalement le temps joue en faveur de Nicolas Maduro ?
Écoutez, moi je suis très prudent sur ce qui concerne l'avenir. Hein. Je suis journaliste, donc le passé, le présent, je peux vous en parler. L'avenir, je ne sais pas. Non, simplement, effectivement, ça vient d'être dit par Olivier Compagnon. Je veux dire, l'opération Juan Guaido est un échec total, et y compris provoque maintenant des remous au sein de l'opposition. En particulier, l'opération Gédéon a provoqué un début de révolte au sein de cette opposition, ce qu'on appelle le G4, hein, qui sont les quatre partis les plus importants, et d'une certaine manière renforce un secteur dont on ne parle jamais, et je le regrette profondément, c'est que tout un secteur de l'opposition qui négocie actuellement avec Nicolas Maduro. Alors c'est une histoire très longue aussi, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais Juan Guaido n'est même plus président de l'Assemblée nationale, puisque au terme d'un processus qui a été très controversé, comme tout ce qui se passe au Venezuela, le nouveau président de l'Assemblée nationale qui a été élu avec la partie de l'opposition qui veut sortir de cette crise avec l'appui des chavistes, hein, c'est-à-dire la droite appuyée par les chavistes, a nommé un nouveau président de l'Assemblée nationale qui s'appelle Luis Parra, et dont avant la pandémie, l'objectif principal, c'était d'organiser, par exemple, des élections législatives cette année. Il y a une partie de l'opposition aujourd'hui qui est prête à rentrer dans un jeu démocratique, et l'opération de Guaido ne fait que retarder une issue éventuellement positive pour le Venezuela, quel que soit d'ailleurs le vainqueur ensuite des élections législatives, présidentielles, etc., que ce soit la droite ou le chavisme.
Alors, Jean-Jacques Kurlianski, finalement, cet accord entre Juan Guaido et Maduro me fait vous poser cette question. Qu'est-ce que l'on sait finalement de la stratégie de Maduro ? Faire alliance avec l'opposition pour, sur certains points, mais là, il y a une véritable urgence avec la crise du coronavirus. On n'en a pas encore parlé, mais ce sont tous ces Vénézuéliens qui, depuis 2015, quittent le pays, sont revenus. Voilà, qu'est-ce que l'on sait de la stratégie de Maduro ?
La crise du coronavirus, excusez-moi de commencer par là, il faut quand même relativiser l'impact de cette crise, l'impact réel en nombre de décès, de personnes contaminées au Venezuela, ce qui est tout à fait logique dans la mesure où il y a peu de contact avec le monde extérieur, donc rien à voir avec ce qui se passe au Brésil ou même au Mexique, au Chili ou au Pérou. Cela dit, le gouvernement vénézuélien est lui-même traversé d'un certain nombre de contradictions. Il y a des durs, il y a des critiques, des gens qui sont plutôt ouverts au dialogue. Mais le constat que l'on peut faire, c'est que aux dernières élections présidentielles, qui se sont déroulées en ce qui concerne l'élection en elle-même, de façon tout à fait correcte, avec une partie de l'opposition qui a participé à cette élection, était révélatrice en elle-même de la situation, des difficultés de trouver des ponts entre le gouvernement et une opposition dont une partie est fatiguée par les stratégies qui ont été suivies jusqu'ici et une autre se maintient dans une radicalité qui lui interdit toute sortie, sauf à recourir, ce qu'elle fait de temps en temps, à des aventures comme celle de l'opération Gédéon, ou dès 2002, comme l'a rappelé Olivier Compagnon, à des choses plus lourdes, avec une tentative de coup d'État. Donc, le problème, bon, je suis d'accord avec Maurice Lemoine, il est difficile de lire l'avenir, mais on voit très bien ce jeu permanent qui pourrait être rééquilibré en faveur des voies s'orientant vers le dialogue, si une partie de la communauté internationale, et c'est là qu'on note le déficit européen, appuyait ceux qui sont en faveur d'une véritable voie allant vers le dialogue. L'Europe a organisé il y a quelques jours une conférence des donateurs pour les réfugiés vénézuéliens, mais alors le responsable européen, l'espagnol José Borrell, des questions des relations extérieures de la communauté européenne, a été obligé de reconnaître la difficulté d'avoir des contacts pour l'Union européenne avec les Vénézuéliens dans l'intérieur, dans la mesure où il s'est coupé des canaux de communication en reconnaissant Juan Guaido, qui ne préside rien, qui est un président hors sol. Voilà le contexte pour moi de la situation, la véritable sortie de crise, ce qui pourrait faire peser la balance en faveur des forces du dialogue qui existent dans un camp comme dans l'autre, indépendamment de ce que l'on peut penser des uns ou des autres. Mais si on veut aller vers le dialogue, il faudrait qu'il y ait un acteur international de poids qui pèse dans cette direction-là pour soutenir ce qu'ont tenté de faire les Mexicains, les Uruguayens l'année dernière.
Alors, un commentaire, Olivier Compagnon.
Éventuellement l'Argentine d'Alberto Fernandez lorsque la crise du coronavirus sera passée. Je voudrais juste dire un mot quand même sur justement la gestion de Maduro, et je ne vais pas non plus prédire l'avenir, je n'en sais strictement rien. On l'a pas eu l'occasion de le dire encore clairement parce que c'était pas le sujet de notre débat, mais il faut quand même souligner la situation économique absolument catastrophique du Venezuela. Donc il y a de nombreuses causes, on a évoqué les sanctions, et il faut vraiment faire la part des sanctions, mais il faut aussi parler de la ruine de l'économie pétrolière. Alors, ces difficultés pétrolières, elles sont liées évidemment à l'effondrement des cours qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient dans la première moitié des années 2010, et donc ça pénalise cette économie depuis, dépendante presque exclusivement du pétrole depuis plus d'un siècle maintenant, mais c'est aussi ensuite une gestion depuis 20 ans de la richesse pétrolière qui n'a pas été entièrement adéquate aux yeux de ce que disent tous les spécialistes.
Mais c'est un euphémisme en tout cas, oui, apparemment.
Alors, un manque d'investissement productif dans des activités extractives qui justement nécessitent des adaptations technologiques permanentes, etc. etc. Et ce qui est un petit peu angoissant, je dirais, pour l'avenir du Venezuela, et là, indépendamment de toute considération politique, qui que ce soit qui parvienne au pouvoir, c'est que la relance de l'économie pétrolière, qui est la seule qui peut aujourd'hui recréer de la prospérité, prendra des années et des années. Or, on est confronté aujourd'hui donc à une situation économique qu'on connaît, une inflation hallucinante, etc., mais aussi voilà, des difficultés quotidiennes pour la majorité de la population qui deviennent littéralement insupportables. Et donc, je crois que le débat sur Maduro, Guaido, etc., à un moment donné, effectivement, il faudrait en sortir pour tout simplement trouver une solution politique qui permette le plus rapidement possible d'essayer de reconstruire, alors avec l'aide de la communauté internationale qui lèverait les sanctions, notamment, une économie permettant ensuite de recréer un peu de richesse, de recréer un peu de redistribution.
Et ces sanctions américaines que vous évoquiez sont des sanctions qui se sont transformées en véritable blocus avec Donald Trump. Alors, le temps passe. Une conclusion à cette émission. Je commence par vous, Maurice Lemoine.
Bah écoutez, je vais faire une conclusion d'autosatisfaction. Non, vous savez, le Venezuela est un thème tellement conflictuel qu'il est rare d'avoir des débats sereins. Et c'est une grande difficulté, y compris d'ailleurs pour ceux qui réfléchissent en n'ayant pas des sympathies particulières pour Maduro, que pour ceux qui, et c'est mon cas, ayant une certaine empathie pour le Venezuela bolivarien. Je suis heureux que ce soit sur le service public à RFI qu'on puisse avoir un débat tranquille sur ce sujet.
Jean-Jacques Kourlianski, après ça Olivier Compagnon.
Simplement, je voudrais mettre le doigt sur la contradiction fondamentale de la communauté internationale qui pratique soi-disant une politique humanitaire en direction du Venezuela en essayant de rentrer en force en territoire vénézuélien le 23 février de l'année dernière, en organisant des conférences européennes où chacun reconnaît l'impossibilité d'apporter de l'aide au Venezuela dans la mesure qu'on s'est coupé de toute relation avec le gouvernement qui exerce effectivement une autorité sur le Venezuela. Donc il serait temps de revenir à la raison et de retrouver, y compris si l'on admet qu'on est dans une guerre froide, nouvelle version, de retrouver le sens de la coexistence pacifique.
Olivier Compagnon.
Moi, je vais dire ce que je dis depuis plusieurs années maintenant, au risque peut-être d'être démenti par les faits le jour où une sortie de crise surgira, mais je continue à croire qu'une partie de la solution se trouvera dans l'armée. D'abord pour des raisons tout à fait historiques, c'est que quand à un moment donné la nation semble menacée, en difficulté, il y a cette vocation des militaires qui ont fait naître la nation au début du 19e siècle à reprendre en main les rênes du pouvoir. Donc moi, je crois que ça peut se jouer là-dedans. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire coup d'État, etc. Simplement, l'armée vénézuélienne comme possible médiatrice pour un gouvernement d'union nationale, une sortie de crise, je ne sais exactement quelle option. Je pense que c'est un acteur essentiel qu'il faut continuer à scruter, même si c'est très difficile aujourd'hui de savoir exactement les rapports de force politique qui existent au sein de ces forces armées vénézuéliennes.
Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Venezuela. Merci Olivier Compagnon. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et co-rédacteur des Cahiers de l'Amérique latine aux éditions IHEL. Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès, et Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, auteur de Venezuela, chronique d'une déstabilisation aux éditions Le Temps des Cerises et collaborateur du site Mémoire des Luttes que l'on trouve à l'adresse suivante www.medelu.org. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Calédec et Nathalie Laporte. Demain, nous nous poserons la question de savoir s'il y aura un nouvel ordre international post-Covid. À demain.